Guédiguian, oh, les lèvres en feu. Attends. Non, Baptiste, d'abord, c'est référence à MASH.
Non, lèvres de feu.
Bah, moi, je suis pas cultureuse, hein, tu sais.
Et là, tu viens de boire un truc.
Je me suis cramé avec mon café, voilà.
Voilà, c'est pour ça que j'ai fait
tous.
Ça.
Voilà. Pardon, on refait
Non, oui, on refait. Morgane Galil,
ah, salut.
Bouche enflée, maintenant, parce que ça a brûlé. Hier, Romain Guise, bon. L'homme avec des amis infréquentables. Tout à l'heure, Tanguy Bassiro, Daniel Morat, oui, et nos invités, Ramzi Media et Samuel Bachelier.
Oh, oui.
Eh ouais, Guillermo est en train de traverser une période très délicate, à savoir, peut-on être aimé par des gens que l'on hait? C'est vrai que c'est très délicat.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, on parlera plus tard. Mais
pourquoi tu en parles plus tard?
Mais pas, j'ai jamais dit que je haïssais la personne en question. Nagui, ne transférez pas sur moi. Nagui, là, il est quand même incroyable, ce garçon. Hein.
Tu m'as dit, j'ai honte.
J'ai pas dit honte.
Ah, c'est quoi le mot, alors? J'assume pas.
Non, il veut pas
j'aime
le dire, pas. Là.
Je veux pas, non, j'ai pas envie de parler, Nagui Fetini. Il n'y a pas une émission de France Inter, la bande originale, c'est maintenant.
Je donne pas le nom. Je dis juste, comment vous l'avez qualifié? C'est gênant d'avoir un compliment.
C'est dur d'être aimé par des cons, quoi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, on va dire ça comme c'est, voilà, exactement. Ouais, c'est un très très beau résumé et je pense que ça vraiment ça
va lancer l'émission.
Exactement.
Et tu vois,
cette métaphore Charlie Hebdo est totalement inattendue.
D'ailleurs, j'ai un deuxième nom qui est arrivé dans mon casque aussi d'une autre personne. Mais pourquoi y a tant de cons qui vous admirent?
Je sais pas, moi ça devient de plus en plus obscur cette émission, je vous le dis. Vite le blind test. Hein.
Moi perso, je t'adore.
Tu vois, ça en fait trois maintenant. C'est un sans blaguer, fais quelque chose, réagis mec.
Te laisse pas faire, surtout te laisse pas faire.
Ramzi Media, Samuel Benchedrit pour parler d'un film qui s'appelle Cette musique ne joue pour personne. On va en parler avec eux dans quelques instants. Voici le blind test.
Les danses.
Morgane?
Non. Morgane?
La musique?
C'est qui?
C'est. Morgane?
Nicoletta?
Nicoletta.
Ah, Nicoletta?
Non, mais c'est moi, elle l'a dit.
C'est Nicoletta?
Ouais.
Oui!
On peut avoir un point si on confirme.
J'adore cette chanson.
Vois avec des amis.
C'est bâtard. Repris par la Star Academy, Leïla.
T'as dit quel bâtard? T'as dit ça?
Ah oui.
Affectueusement.
Oui, moi, je connais plus Nicoletta.
Quel gentil bâtard, alors.
On est tous avec toi.
Qui chante ça?
Morgane.
Guy.
Ouais. Madonna.
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Donc le thème, c'est bien musique.
Je pense qu'on n'est pas loin
pour
du
ceux qui n'ont pas
saisi le principe du...
Je suis là pour aider, hein.
Si je peux être utile. Ouais, qui chante
service.
Ça?
Guy.
Oui.
Ah ouais. France Gall.
Oui.
Ça commence hyper bien ce morceau, tu t'imagines pas, Franck.
On dirait Nile Rodgers.
T'as l'impression, voilà, exactement.
Comment
tu
le
vois...
prends? Alors, comment le prendre?
Ça commence hyper bien,
tu t'imagines pas France Gall derrière.
Non, mais t'imagines un groove, un truc. Un mec est habillé comme ouais. Starsky Hutch, quoi.
Et alors?
Shaft.
Ouais, ça fait vraiment Shaft. Ouais.
Merci.
Qui chante ça?
Leïla.
Daniel.
Gigi.
Daniel. Joue pas Feldman.
Non, c'est Daniel. C'est Feldman.
Non.
Si, c'est Daniel.
Arrête, Leïla. Arrête.
C'est Leïla?
Bah oui, c'est moi en premier. Merci, Feldman.
Non, elle a dit son nom avant de rentrer dans le studio, histoire d'être sûr.
Non, mais alors, Alicia le confirme.
Ouais, en régie, on me dit que c'est Leïla. Okay.
Alors, même la régie contre moi.
Même la régie contre moi.
Ça commence à faire beaucoup.
La régie est juste.
Depuis quand?
Depuis aujourd'hui, regarde.
Ah, ok, merci.
Qui chante ça?
Ah, je connais ça.
Daniel. Patrick Besson.
Non. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? On est dans la qualité, dans l'excellence. No foolish dream to make me cry.
I'm never frightened or worried. Il y a un super gros, on s'attend à ce que ce soit France Gall et pas du tout.
Non, c'est en anglais. Énorme. Vous connaissez pas?
Si, mais.
Ah, j'aurais pas le nom.
Moi je connais le track, mais je crois que c'est qui chante.
C'est énorme ce tube, c'est un gros tube. Ah, j'aurais dû le mettre en Super Banco, vous pensez?
Ouais, mais on aurait pas trouvé comme
écoute,
ça.
Écoute, c'est le refrain.
I got the music in me.
Ouais. Mais c'est qui chante ça?
Sur le gong, bravo Guillermo.
C'est bien pour Guillermo, faut un point.
Ah, mais c'est un demi-point.
Ok, Guillermo.
C'était qui?
Kiki dit.
Ah, ouais.
Kiki dit.
Celle qui avait fait
Kiki.
Non.
C'est Moscato.
C'est le duo Elton John Kiki dit Don't Go Breaking My Heart.
Ah, oui.
Et elle avait fait ça comme tube
Kiki
avant.
Dit,
Kiki dit, mais il dit qu'il va continuer. Il dit qu'il va continuer pour l'instant. Bah, deux
alors,
points.
Il avance.
Deux points pour Guillermo, deux pour Morgane, un pour Leïla, rien pour Daniel.
Attends.
Ouais.
Oh, ça sent la maladie.
Non.
Marvin Gaye.
Non. Mais c'est le genre.
Otis Redding.
Non, plus reggae.
Ah, Carole Jack.
Non, j'ai dit mon nom avant.
La régie.
Il a dit Guy ou pas?
Non, moi j'ai pas
dit Pierre Paul Jack, il a pas dit Guy.
Pierre Paul Jack, mais...
J'ai dit Leïla.
Qui a donné la réponse? Qui a dit je sais pas jouer? Ah, toi t'as donné Pierre Paul Jacques?
Ouais, j'ai dit Pierre Paul Jacques.
Ok, Guillermo.
Et le prénom quoi?
Ouais, c'est vrai, t'as pas donné ton prénom, mais je
te l'accorde. Il a dit qui, Pierre Paul Jacques? Ah ouais.
Pierre Paul Jacques, parce que. Je sais pas jouer, évidemment, et on c'est avec quand même. Cette musique ne joue pas.
Ouais, mais là, c'était Banco, là, en fait.
Cette musique ne joue pour personne. On a fait musique, on a fait.
D'accord. On a joué.
On a
personne.
Joué.
Donc, dernier titre. Qui chante?
Leïla, c'est Rolling Stone. Olaf.
Pardon?
Rolling Stone?
Non.
Springsteen?
Quel rapport entre Springsteen et cette musique ne joue pour personne? Daniel, en rien, c'est bon.
Somebody...
To love?
Ouais.
Non. Je veux le prénom avant. Vous me donnez votre prénom.
Ah, pour l'instant, on n'a rien du tout.
C'est vrai que c'est très Rolling Stone.
Bah ouais.
Ouais, à fond, quoi.
Merci.
J'ai pris les portes, j'en fais des courants d'air.
Non, enfin,
je crois que c'est le
moment. Morgan. Stéphane Deschamps.
Non.
Mais comment il s'appelle? Paul Personne. Leïla.
Leïla. Énorme sortie. Très fort.
Et très belle. Très, très belle.
Très très beau.
Donc, on a eu un blind test où on a eu musique, on a eu joue, on a eu personne. Leïla gagne ce blind test. Et merci d'accueillir Samuel Benchetri et Ramzi Bedia.
Avec Nagui.
Soyez les bienvenus tous les deux. Comment allez-vous, Samuel?
Super. Bonjour. Bonjour à tous.
T'as l'air en pleine forme.
Je le suis. Mais non, mais je viens parler d'un film que j'adore, donc.
Eh ben, ça tombe bien, nous aussi.
Merci comme
ça,
pour le film.
On va tous être
Neptune.
D'accord, ouais. Cette musique ne joue pour personne, qui sort en salle ce mercredi avec François Damiens, avec Vanessa Paradis, Gustave Kerven, Joe Starr, Bouli Lanners, Valeria Bonitedeschi, Vincent McCain, Raphaël Doyle, Constance Rousseau, Jules Benchetrit, Bruno Podalides. On ne voit pas beaucoup, mais qui est extrêmement drôle dans les scènes qu'il a jouées en. Je ne sais pas, en metteur en scène, en homme de théâtre, dirons-nous.
Qui ne veut pas mourir.
Ramzi Bedia, et tout ça devant votre caméra, Samuel Benchetrit. J'ai envie de dire, moi je me suis retrouvé dans une ambiance un peu à la Big Lebowski, à la Frère Cohen. Je ne sais pas si c'est le genre de référence que vous cherchiez ou pas dans l'écriture et dans la réalisation. Pardon si...
Non, j'adore.
C'est pas le cas.
C'est bien. Non, de toute façon, il y a une sorte de décalage un peu dans ce film, donc. Comme eux, mais eux, c'est les patrons de ça. Donc
Ah bon, les frères Cohen, c'est les tauliers, c'est ça
ouais,
En tout cas, on est dans, pour résumer, on est dans
on
un
pas,
port avec des
ouais.
dockers. Ouais, y a plusieurs histoires. Il y a quand même l'histoire de l'art et de la poésie ou du théâtre qui est en fil conducteur, c'est-à-dire comment se sortir de sa condition, de sa vie, à travers des métiers artistiques.
Un peu, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous, il y a trois histoires dans le film, et ils sont tous confrontés à l'art parce qu'ils sont amoureux, pour plaire à une fille, pour essayer de séduire une fille ou d'aider une fille. Donc, c'est vrai que quand on aime une fille, on peut écrire des poèmes, faire du théâtre. C'est très ado, quoi.
Hein, ouais, il y a un petit côté Cyrano aussi,
ouais,
évidemment.
C'est Ramzi, mon Cyrano. C'est le Cyrano d'aujourd'hui, quoi.
Parce qu'en plus, il y a une Roxane.
Il y a une Roxane,
donc vous n'avez pas, je crois pas.
De quoi?
Non, il y a Roxane, il n'y a pas Christian.
Non, il n'y en a pas qui écrit.
Non.
J'ai pas compris.
Si. Mais elle s'appelle véritablement.
La petite, elle s'appelle Roxane. Ouais.
Elle s'appelle véritablement Roxane, ce que je voulais dire. Ouais, d'accord. Mais les autres personnages ne s'appellent pas ni Cyrano ni Christian. Ça serait quand même aller. On est à ça du procès, quoi. Il y a un moment où qui est la référence et le clin d'œil, c'est une chose. Vous êtes l'amoureux transi qui porte les messages justement à cette Roxane, mais qui finalement est un grand cœur derrière un petit côté quoi, loubard, voyou, docker, violent.
Oui, j'ai arrêté d'écouter à la moitié, je me disais, non, pardon, je me disais, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Mais non, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis dans la, on est dans la loge, on ne peut pas eu le temps de parler, on fait comme si de rien n'était.
On n'a pas eu le temps de parler
alors
parce que.
On se connaît un peu, on se dit pas.
On n'a pas eu le temps de parler parce que t'es arrivé juste 10 secondes avant le début de l'émission.
Eh bien non, c'est... mon pauvre.
J'étais
à 10h45 en bas.
Mais non!
Avant l'attaché de presse.
C'est vrai.
Et ça me fait très plaisir.
Je suis venu te chercher, je te jure.
Et ça me fait plaisir
on
de te voir.
Kawa, mais grave.
Ça va?
Tu vas bien? Très bien.
La famille, tout ça.
Tout non,
mais... Allez, on y va, les garçons.
Bon, alors. Le...
Neptune.
Oui. Non, mais. Votre...
Ce porteur de messages qui, en fait, va tomber amoureux à force de porter des messages pour le comte de François Damiens.
C'est... Oui, et en plus, je la voyais pas venir, celle-là. Je pensais vraiment pas tomber amoureux de cette fille. Et j'essaye juste d'aider le personnage de François, mais c'est, j'ai l'impression, c'est pas juste moi, c'est tous les chacun des personnages, on est vraiment tous, on forme un tout. J'arrive pas à parler de mon personnage uniquement, je trouve qu'on
parce
forme
que
un tout.
Parce que t'es généreux.
Et parce que le mien va.
Mais il faut reconnaître qu'il y a une bande, qu'il y a une bande dès le départ, que c'est, on a cette image un peu de cinq hommes.
Il y a 740 kilos d'acteurs dans ce film. J'ai compté 740 kilos. J'ai vraiment compté un jour, on faisait un plan.
Le mec, il pèse.
Ouais, je pèse.
Mais ça, c'est très Cohen, comme réflexion.
Ah, mais j'adore l'idée. Il y en a plus gros que d'autres, mais j'adore l'idée.
Ouais, mais il y a des grands aussi. C'est qui le plus gros?
C'est qui le plus gros?
C'est pas un bon pitch.
C'est Joey Star. Non, c'est pas sympa.
Ah, ça balance.
Ouais, okay. Belle ambiance.
D'accord, ok. Maintenant, faut voir s'ils ont le courage de faire la même vanne devant lui.
Voilà.
Le pire, c'est que oui.
Non, mais pour le coup, ils courent pas vite.
C'est une bande hyper attachante parce que c'est cinq bonhommes qui ont l'air un peu paumés, mais en même temps qui font famille, en fait, qui se sont choisis et qui sont d'une poésie folle, en fait. Ils ont beau être là à attendre de, je sais pas, choper de la marchandise. On comprend pas bien ce qu'ils font, d'ailleurs. Et c'est pas l'intérêt, c'est même pas le sujet du film. Mais ils sont tous mus par une forme de poésie qui existe en eux et qui demande juste à être révélée au contact d'autres.
Oui, c'est vrai. Oui, au début, on voit qu'ils évoluent dans un univers un peu comme ça. Il y a un peu de violence autour d'eux, tout ça. Mais c'était justement l'idée, c'était de se dire, bon, on montre ça, mais c'est assez rapide. Mais on s'intéresse au sentiment. À un moment donné, ils sont dans le sentiment. Mais comme je crois que tout le monde sur Terre a un rapport à la poésie, à l'art, où la plupart des gens s'en empêchent. On leur dit, il faut pas. Dès l'enfance, il faut arrêter. C'est pas pour toi. T'es pas un artiste.
Ouais.
Mais je crois que tout le monde aime. C'est pour tout le monde, quoi. C'est quelque chose qui peut.
C'est l'amour qui les pousse à l'art.
Oui, c'est l'amour.
Et c'est pas l'art qui les amène à l'amour.
Mon père, quand j'étais petit, il était ouvrier. Alors, il bossait dans une usine de serrurier. Tu sais, c'était une bande de gars un peu costauds. Et c'était des pudiques, quoi. Ça rigolait pas. Mais le week-end, quand on partait en vacances ensemble, où je les voyais, et dès que je les voyais être tendres avec leurs femmes ou avec leurs enfants, ça prenait des proportions incroyables parce que. Il fallait bien aussi dire des mots d'amour, quoi, des choses comme ça. Et je trouvais que c'était quelque part encore plus fort dans les yeux ou dans le cœur de ces gars-là.
Ça a été le point de départ de votre écriture ?
Un peu, ouais. Oui, c'était le point de départ. C'est vrai.
En tout cas, ça fonctionne. C'est tendre, drôle, très musical, parce que cette musique ne joue pour personne. Il y en a beaucoup. Il y a une BO fournie, chargée, qui passe par la radio, souvent.
Cette musique qui passe pendant une scène de violence ultime qui est juste à quelques mètres de...
C'est un tutoriel, en fait, ce film aussi, pour comment faire pour faire céder des ados. Moi, je trouve qu'il y a plein de méthodes intéressantes qu'on n'a jamais exploitées. Il suffit d'un sac plastique et d'une ceinture et on fait des trucs fous.
Mais ça va pas, mais Leïla, c'est pas légal.
J'ai pas dit que c'était légal ou pas, j'ai dit que ça nous donnait des idées.
C'est l'étal,
que
ça marche. C'est l'étal.
En tout cas, ça marche.
Ça fonctionne.
Oui, mais ok, d'accord, vous êtes fous. Donc vous êtes aussi fous que la bande du film, c'est super, très bien. Cette musique ne joue pour. Ouais, cette musique ne joue pour personne. Le film sort ce mercredi. On va continuer d'en parler avec Ramzi Bedia et Samuel Benchetrid. Mais d'abord, voici Morgane Cadignan qui vous aime pas, mais pas du tout. Bougez du tout. Oh, les yeux de Ramzi à Morgane,
je sens des excuses dans tes yeux.
Ah, c'est bien la première fois.
Ramzi Samuel, je vous aime pas. Alors, autant cette musique ne joue pour personne, autant ce film se tourne avec énormément de monde. Vanessa Paradis, Bully Lanner, Joey Starr, Gustave Kevern, etc., etc. Oh, surprise, Vincent McCain. Un film pour le... un film pour lequel Nagui va dire dans 10 minutes, et quel casting de dingue! Puis après, il va tous les citer dans un moment qui, à la base, est promotionnel, mais au bout de la troisième fois, ressemblera à une cérémonie de l'armistice, hein. Après, c'est vrai, casting de ouf. Il y avait vraiment le choix. Du coup, c'est marrant d'être venu avec Ramzi Bedia, quoi. c'est bon, elle est passée! non, mais j'adore! Les amis, j'adore Ramzi, c'est pas le problème. C'est pas le problème, mais moi, j'ai déjà fait son émission Kem sur Canal+, donc j'ai plus rien à gratter en fait. Et en plus, j'ai perdu, donc je vais même pas me gêner. Quand j'y suis allée, j'étais timide, genre, ah merci Ramzi pour l'invitation. Là, t'es sur mes terres, mon gars. Tu vas faire quoi? Enfin, t'es sur les terres de Nagui, hein. Enfin, t'es sur les terres de Laurence Bloch, pour être exact. Bon, si on veut vraiment être précis, ouais. Sur celle de Sybille Veil. Voilà. En fait, t'es sur des terres financées par l'État et le service public. Et c'était le clash le plus claqué de l'histoire du clash. On dirait La Fouine et Booba. Je suis pas super prête pour aller faire un rap Contenders. Limite, faut mettre face à Lynn Renault pour que j'ai une petite chance d'éclater quelqu'un. Sinon, c'est mort. Ramzi, je vous clash, mais en vrai, vous êtes une lueur d'espoir pour tous les humoristes en France. Vous nous montrez aujourd'hui qu'on peut expliquer le mot conciliabule sur scène avec Eric Judor et être dirigé par Samuel Benchetrit quelques années après. Franchement, avec Guy, si on s'applique et qu'on suit vos traces, avec un peu de chance, d'ici 15 ou 20 ans, on tourne dans un film d'Olivia Sayas ou de Danny Boone, si on sait pas appliquer, ou de Marc Dorcel, si vraiment faut mettre la daronne à l'abri. Bon, je vais être un petit peu opportuniste deux minutes, parce que... Bah, quoi ?
Il y a des bons Marc Dorcel, hein.
J'aime bien le bac.
Elle aura sa maison en Arbonne-Plage, on sera content, quoi. Bah, je vais être opportuniste deux minutes, parce qu'il faut que j'assure mon avenir, donc attention, je vais faire un peu de lèche, mais vous comprendrez que je peux pas rester dans cette émission toute ma vie. Tu te rends pas compte, de chronique en chronique, tu t'habitues, et si je fais pas gaffe, dans 60 ans, je suis encore là à présenter mon héros du jour. Je peux pas. Samuel Benchetrit.
Chute!
Samuel Benchetrit, quelle carrière! Clash. Naissance à Champigny-sur-Marne en 73, déjà ça, c'est hyper impressionnant. Bravo. Même année que Heidi Klum et Bruce Toussaint. Il y a des années, c'est des grands crus, c'est comme ça. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Qu'est-ce que c'était bien? C'était l'affiche la plus classe de ma chambre d'ado. C'est là que j'ai compris que le seul moyen pour une femme d'être tranquille en allaitant un enfant en public, c'est potentiellement de le faire avec un flingue dans sa ceinture. Le thème de votre film cette fois, c'est l'art qui peut changer la vie. Je suis assez d'accord, ça te rend plus sensible, l'art, un peu plus pauvre que tu ne l'étais déjà parfois, et ça change surtout la vie quand ta partenaire de théâtre, c'est Vanessa Paradis. Moi, ma prof, c'était Madame Crisson, et on a quand même payé toute une année de MJC pour entendre une fumeuse de 65 ans nous dire que le plus important, c'est bien respirer. Donc, je serai jamais Samuel Benchetrit. Avec beaucoup de chance, je serai Ramzi Bedia, et je crois que le plus important dans tout ça, c'est de ne pas être Daniel Morin.
Merci.
T'es morte. T'es morte.
Un droit de réponse, Ramzi.
Non, mais très bonne vanne du super casting, tiens. Pourquoi tu veux
c'est vrai, c'est vrai qu'il l'a bien pris cette vanne. Samuel, l'idée de dire, il y a plusieurs. On va pas toujours tirer des leçons et des messages de tout. Il y a aussi des histoires avec lesquelles on peut se faire comme ça balader sans forcément chercher des messages. Mais l'idée de dire que derrière les gros méchants, les gros bras, il y a toujours une part de poésie ou de tendresse, ça a été, comme vous l'avez dit avec votre enfance, hein, le point de départ.
Ouais, c'était de déjà, moi je voulais faire ce film, j'étais très heureux quand je l'ai écrit, et je voulais faire un film libre, voilà, quelque chose de libre, quelque chose. Et déjà j'ai écrit pour eux, pour ces acteurs. J'avais tourné avec
donc l'idée du film choral était voilà. Dès le début, il fallait mais une bande.
Vraiment pour eux, quoi. D'accord. Je sais pas, je pense que dès que j'ai fini la dernière ligne, par exemple, j'ai appelé Ramzi en disant tu veux le faire. Il y avait des acteurs avec lesquels j'avais déjà tourné plusieurs fois et j'avais envie de tourner avec Ramzi depuis longtemps, très longtemps, avec Damien aussi et Joey Starr. Et donc je les ai appelés, tout le monde m'a dit ça marche, on va le faire, mais je me suis dit j'arriverai pas à aller au bout avec toute cette bande, ils vont être pris et c'est fou parce qu'on a réussi à le faire.
Ça s'est fait comme ça, parce que généralement, il y a un circuit, on passe par les agents, on envoie les scénars. Vous êtes allé directement sur le portable.
Non, les agents aussi, vous les avez.
Non, ça aide.
Non,
ce que je veux dire, c'est que vous avez humanisé aussi ce rapport-là en le demandant, pas comme un service quand même, c'est pas.
Non, mais on se connaissait un peu dans la vie, on avait déjà.
Si je peux raconter cette petite anecdote pour te répondre, comment on a évité les agents, j'avais rencontré, mais on s'était rencontré 5-6 ans avant qu'on tourne ensemble, j'avais croisé Samuel, on se connaissait pas, et je le voyais rentrer dans une épicerie, et je l'ai suivi.
Une librairie.
Librairie.
L'escroc.
Dans une librairie.
Avec la Pléiade sur le bras.
Il a jamais su la différence.
On se nourrit de la même manière. Ouais.
C'était pour le blé en herbe.
Et donc, je le suis dans cette librairie pour lui dire à quel point qu'on ne se connaissait pas et à quel point j'adorais ce qu'il faisait et que j'adorerais tourner avec lui un jour. Et ça, je lui ai dit ça il y a 5-6 ans avant qu'on tourne.
Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, évidemment.
Voilà,
j'avais noté.
J'avais noté qui est. Non, je suis allé au commissariat faire une main courante. Et c'est là où j'ai su l'identité du monsieur qui m'avait agressé dans la librairie.
Comme quoi ça marche, l'épicerie.
Mais voilà, j'avais jeté de l'amour déjà des années avant.
Et justement, cet amour est très présent. Donc, on l'a dit, les gros bras ont une part de poésie en eux. La violence est plus du côté des ados que du côté des adultes.
Oui.
Clairement.
Ils sont fous, ces ados.
Ouais.
Oui, ils sont fous.
Ils sont sans limite.
Ils sont tous le contraire de ça dans la vie. J'ai jamais eu des ados aussi doux, calmes.
D'abord, par les acteurs.
Ouais, les acteurs.
Oui, mais ce que vous voulez faire passer comme message là, de dire que la nouvelle génération est plus violente encore, sans limite que l'ancienne.
Non, ouais. Enfin, moi j'ai été un ado un peu, je sais pas, ça, j'avais mais j'en avais jusque là, jusqu'à la, parce que je mime la gorge, j'avais jusqu'à la gorge de je sais pas, de j'avais violence. Envie de lire Bukowski toute la journée, quoi. J'étais révolté, j'étais un. Donc là, il y a un côté
violence,
comme ça.
C'est une violence intellectuelle. Là, on est dans une violence physique.
Je sais pas. Je me suis retrouvé il y a quelques temps avec des ados comme ça qui fumaient tous d'énormes clopes électroniques en s'insultant et je comprenais rien. Et donc, je suis largué. Ma fille, elle a 14 ans, je comprends pas quand elle parle. Elle m'explique des trucs. T'es déter, elle m'a dit la fois.
Ouais. Déterminé.
Ouais. Ah ouais, mais moi, j'avais pas compris ça. Ouais.
C'est la vraie. Il n'y a pas un énorme piège entre déter et déterminé. Mais après, il a entendu. Le papa, il a entendu éther, tu vois.
Mais c'est ça, mais finissez vos mots.
Vous êtes très dark, parce que déter, le mec, il cherche pas à déterminer, il cherche à déterrer quelqu'un.
Je comprends.
Il est violent. Justement, ce film qui part avec en toile de fond beaucoup de violence et l'extrême, parce que la poésie, c'est quand même l'extrême. On peut penser, oui, à l'amour, on peut penser à la paternité, à la filiation. Il y avait quand même d'autres manières d'aborder le côté cœur tendre de ces dockers malfrats. D'ailleurs, on ne sait pas trop quel côté ils sont. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, c'est la photo. Ouais. On a la bande. Pourquoi aller jusqu'à la poésie, qui est un cas extrême de sensibilité et...
Parce qu'au début, il y a quelque chose dans la poésie qui est quelque chose qui a disparu. C'est fini. La fois, je disais, je crois que ça représente même pas 0,1% des ventes de livres, la poésie. C'est fou. Ça a été quand même quelque chose d'incroyable, la poésie. Les stars, il y a plus d'un siècle, c'était des poètes, quoi. Je veux dire, ils étaient.
C'était le genre noble par excellence.
Oui, mais enfin, les poètes aujourd'hui sont dans la musique, dans le slam, dans le rap.
Exactement.
C'est une autre manière d'écrire des textes.
Et c'est pour ça que je trouve ça magnifique. Je comprends pas qu'on dise que c'est pas de la poésie. Et justement, alors. La poésie, il y avait quelque chose de scolaire, d'enfantin. J'aimais bien l'idée du club de poésie auquel est François Damiens. C'est inscrit pour écrire des poèmes.
C'est très drôle.
Et en fait, dans la première version du scénario, parce qu'on coupe, il avait rencontré cette fille parce que lui, en fait, il était dans une sorte de centre comme ça où, en sortant lui d'une réunion d'alcooliques anonymes, il voyait en face une salle de club de poésie. Et cette fille. Mais j'ai coupé ce truc-là parce que parfois c'est intéressant de...
Dans la mise en scène, on est un peu dans le même genre de situation, c'est-à-dire ils sont en cercle, ils se présentent les uns après les autres comme pour s'outer en tant que poète, mais on n'est pas loin des alcooliques anonymes.
Il y a un truc comme ça, ouais. Il y a un truc comme ça, on se demande qui sont ces gens qui
sont
là.
La prise de parole, chacun son tour.
C'est ça.
Et puis
un jugement dans le regard des autres.
Qui peut coûter cher.
C'est ça. Le regard de l'un sur François Damiens, c'est extrêmement drôle. Le prof est extrêmement courageux. Assez dépend d'ailleurs.
Thierry Jiménez, ouais, c'est un grand acteur.
Ah oui, moi, je vois arriver à 5 sur lui.
Oui,
sur le plan,
oui.
Le pauvre. Il me fait de la peine. Quand on avançait à 5 sur lui, il me faisait de la peine. Il me faisait. Vous aimez, je comprends qu'il ait peur. En le jouant, on le sentait.
Moi, j'avais peur.
Et l'idée globale est de donner une morale à ce film, d'avoir un message que vous voulez faire passer.
Pas trop. Pardon.
Non, mais c'est clair.
Non, j'ai pas pensé à la morale ou quoi que ça. J'ai pensé à C'est pas très joli ce que je vais dire, mais
une part de poète.
Ouais, mais j'avais envie de faire un. C'est pas la chose la plus. Je parle pas comme. C'est un film de copains. J'avais envie de faire marrer les copains et moi d'être. J'avais pas d'autre ambition que ça, de me dire. Essayons de faire un film où il n'y a pas forcément une intrigue démente, mais quelque chose d'un peu drôle, léger, d'un peu où on peut encore essayer de faire un peu de cinéma. Et c'est pas facile. Alors ça paraît un peu prétentieux comme ça, mais on a quand même essayé d'en faire. Et puis je crois que les acteurs venaient. C'était le tournage le plus tendre et merveilleux que moi j'ai fait en tout cas. Et on était tous ensemble et on oubliait un petit peu qu'on nous avait donné de l'argent pour faire ça, quoi. Donc
il est peut-être là le message, c'est la tendresse.
En tout cas, la tendresse.
Ouais, ça fait parler de la tendresse.
C'est sûr. Voilà. Et puis peut-être que les filles ont raison. Après tout, ça parle beaucoup de garçons, mais c'est quand même les filles qui ont raison. Un truc comme ça, quoi. Je sais pas, non.
J'aime bien casser l'ambiance, là. Hein. Bravo, Samuel.
Putain, comment on sort de ça?
On va vous laisser.
Drop the mic. Un casting de ouf, comme l'a dit Morgane.
Sauf un, apparemment.
François Damiens, Ramzi Vedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervan, Joe Estin, Bouli Laner. C'est vrai qu'en le disant comme ça, il y a beaucoup de mecs, ouais. Valeria Bouni-Tedeschi. La télé-réalité aussi a une place extrêmement, drôle.
Quand c'est bien, c'est bien.
Ouais. Vincent McCain, Raphaël Doyle, Constance Rousseau, Julie Benchetrit, Bruno Podalides.
Jules.
J'ai dit quoi? Julie. Ah oui, pardon, Jules Benchetrit.
Il faudrait qu'il n'y ait pas assez de filles.
On l'aurait appelé Julie, hein.
Tout cela dans Cette musique ne joue pour personne. Ça sort mercredi en salle. Voici Monsieur Guillaume.
Bravo. Ça va les amigos?
Oui.
J'ai un gros stress ce week-end. Quoi? Je me suis dit, imagine, on est genre lundi 11h30 et Nagui, tout d'un coup, de nulle part, il me donne la parole, tu vois, à moi sur France Inter. Imagine, genre, qu'est-ce que je fais, tu vois? Mais je me suis dit, ça peut arriver, tu vois. On le connaît, Nagui, il fait 10-12 minutes d'interview, après il s'essouffle, hein. Clairement, il a court d'idées, quoi. Nagui, s'il force, ça peut partir en Samuel, honnêtement. Vous êtes plutôt au plat ou à bulle, vraiment. Ramzi, vous trouvez que c'est bien maintenant, on peut payer ça en contact? C'est vraiment le genre de question qu'il peut poser. Dans ces cas-là, je sais que Nagui contre les humoristes pour occuper l'antenne, tu vois. Et en général, je me fais avec, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai 3 minutes devant moi, je vais parler de Mons Gag. Ben voilà, Mons Gag, après toutes ces années, c'est un peu comme un membre de votre famille, les gars. Franchement, Daniel, il demande souvent de ses nouvelles. Tu vois, il a toujours un petit quelque chose pour son anniversaire ou sa Pâque. Une petite attention, tu vois, une carte de vœux, un étui, tu vois, vraiment, ça le touche. Il dit, elle est si gentille, Tata Leila, pourquoi on la voit pas plus souvent? C'est vrai, il me dit souvent ça. Sauf que là, mon Gag, ce week-end, il lui rien arrivé d'amusant. Vraiment, il a eu full problème administratif, il est passé chez Darty, vite fait pour les plaques de cuisson. On va pas vous embêter avec ça à la radio, quand même. Donc, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de Lionel Messi. Il cherchait un truc pour s'installer dans la région, vous avez vu? Il y avait un article dans la presse belge qui était titré, l'Argentin aurait craqué sur un château à 48 millions d'euros. J'étais là, ah, allez! Franchement, il a craqué sur un château à 48 millions. Comment tu fais pour pas craquer sur un château à 48 millions, tu vois? Comment tu fais pour arriver devant un château à 48 millions et te faire, ouais, mais c'est pas non plus, tu vois, un château avec quand même beaucoup de vis-à-vis, tu vois? Enfin, oui, enfin, un îlot central, ok, mais bon, est-ce que c'est si pratique? Tu vois? Forcément, tu craques 48 millions. Tu vois, si t'es devant un studio mansardé, 22 mètres carrés, au 9e étage, sans ascenseur, avec ton chiotte qui est à 80 cm de ta tête d'oreiller, là, il y a moins que tu craques pas, quoi. Clairement, tu vois? Il y a moins que tu te dises, ouais, pour 1800 euros, toi, je vais laisser une place à mon abribus, tu vois? Clairement, il y a du passage. Mais la RATP, ça décore avec goût, quoi. C'est vrai, 48 millions. Il y avait écrit, le palais remplirait les critères recherchés par la famille Messi. Sans blague. 30 pièces, 2000 mètres carrés, des logements pour une piscine intérieure, un cinéma. J'étais sérieux, c'est que ça leur critère. Franchement, c'est pas si extravagant. Une piscine intérieure, un cinéma. Moi, si j'avais un budget de 48 millions, tu sais comment j'aurais tellement plus de critères que ça. L'agent immobilier, je le rendrais ma boule. Je dirais, tu sais quoi, dans le jardin, je veux qu'il y ait une tanière avec un ours. Vraiment, je veux qu'il ait des rudiments d'informatique, cet ours. Je veux que tous les soirs, il me fasse un Moscow Mule. C'est quoi, s'il a pas. Cet ours, il a pas un prénom composé qui termine par Francis. C'est même pas la peine, je fais une offre au prix. Vraiment, tu sais quoi? C'est fou quand même, cette disproportion entre un humain comme Messi qui a le droit d'habiter dans un château à 48 millions et quelqu'un comme Morgane Cadignan, tu vois, qui a vaguement un clic-clac. C'est vrai. Et j'adore ton clic-clac, j'ai dormi plein de fois dessus et tout. J'en parlais avec mon ostéopathe, il me disait, bah, ça nous fait du boulot, tu vois, clairement. Je trouve que c'est mieux de dormir sur son clic-clac que sur une pierre tombale ou un feu rouge, tu vois, clairement. Mais le luxe, c'est inévitable. Technologiquement, le luxe, c'est vraiment le sommet de ce que Sapiens, il est capable de faire en termes de bien, on se met bien. C'est le sommet, c'est vrai. Prends une toilette japonaise. En vrai, on n'est pas obligé d'avoir un petit jet, tu vois, qui te nettoie le huc. On n'est pas obligé. Pendant de longues années, Sapiens, il a fait ça. Nos ancêtres, ils se torchaient avec du molten air ou juste une feuille de cerisier, comme Nicolas Hulot, tu vois. Mais ça allait très bien. Mais ce petit jet d'eau, franchement, Ça fait la diff, tu vois, c'est le petit plus. Tiens, il y a le côté frais. C'est vrai, ben, l'humain, il le fait parce qu'il est capable de le faire. Ça vaut pour la bombe atomique comme pour la toilette japonaise. Et ben, c'était pas dans les critères de Messi d'ailleurs. Mais j'imagine que dans ces critères, à minima, il y a une chasse d'eau. Tu vois, avec un bouton pressoir à portée de main. Toi, ce serait con d'avoir un cinéma chez toi et quand tu vas y aller, je te dois remplir des sauts. Je trouve une chasse d'eau, c'est la base, tu vois. Et le luxe, ça existe, ça existera toujours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une tournante chez les humains pour en profiter. Tu vois, Messi, j'adore Messi. Techniquement, bon, il est limité, tu vois, mais il a une grosse volonté. Le mec, il te fait des courses défensives. Tu dis, mais est-ce que ce serait pas le nouveau Gattuso? Mais je veux dire, mais c'est bien qu'il puisse vivre dans un château à 48 millions d'euros. Mais je veux dire, après 15 jours, viens, il échange avec Morgan, tu vois, qui aurait le droit d'en profiter aussi, tu vois. T'as 30 pièces, frère, si je peux pas dormir autre chose que sur ton clic-clac. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, yes. Guillaume. Tellement vrai tout ça.
Payé de ton hospitalité,
les 5 héros de ce film. D'abord, est-ce qu'il y a un clin d'œil aussi? J'imagine toujours que quand on est réalisateur, auteur, on a des références où on a une mécanique déjà. Le choix de mettre 5 personnages ensemble vient d'un clin d'œil, d'une référence, ou parce que dans l'écriture ça fonctionnait en termes de traits de caractère? Complémentaire.
Non, c'était dans l'écriture. J'ai commencé par écrire l'histoire de Joe Star et Bully, qui s'occupe de l'anniversaire de la fille du patron. Et ensuite, je me suis intéressé.
Qui s'occupe de l'anniversaire, on peut dire quand même en deux mots.
Contraigne.
Oui, il menace certaines personnes pour qu'ils viennent, d'autres pour qu'ils ne viennent pas. C'est comme ça qu'il l'organise.
C'est ça. Voilà.
Mais comme des voyous à la Pulp Fiction, on est Tarantino à donf là.
Ouais, c'est ça. Ils menacent, ils étouffent même des adolescents qui viennent à la fille du patron qui est pas très populaire. Et ensuite, donc en écriture, en fait, je me suis intéressé au patron, donc à François Damiens, et puis à construire cette histoire entre François et Ramzy. Et puis l'autre idée après de Gustave et Carverne et Vanessa sur cette histoire de comédie musicale autour de Sartre et Beauvoir. C'est très bizarre même en le disant. En fait.
Non, mais il faut comprendre que ça part d'un comment dirais-je, d'un comportement de voyou joué par Gustave Carverne qui va réclamer de l'argent dû, donc on se dit ça va mal finir, c'est-à-dire le gars vient en disant tu me dois de l'argent et il peut la frapper, il peut mettre le feu, il est avec une hache, on se dit ça va super mal finir, et en fait il bascule encore une fois grâce à l'amour, il bascule du côté de l'art.
Oui. Voilà, c'est ça. Il vient pour réclamer de l'argent et en rencontrant Vanessa qui est coiffeuse et qui joue dans une pièce amateur Simone de Beauvoir. Il va complètement tomber amoureux d'elle.
Et c'est aussi la magie du théâtre et de l'art, c'est que le personnage incarné par Vanessa Paradis, qui a des problèmes d'élocution dans la vie, dès qu'elle est sur scène, dès qu'elle entre dans le texte...
Elle bégaye super bien.
Elle est comme Vincent Lindon.
Ouais. Elle devient quelqu'un d'autre, mais c'est aussi la magie de l'art, quoi. Elle te transforme, elle te fait accéder, cet art te transforme, te fait accéder à un autre
art. Et
elle a besoin de l'art.
Elle est chargée de Ramzy cet art et de Simone de Beauvoir, donc les deux lui donnent un peu de force.
Et Simone de Beauvoir, c'est pas par hasard non plus, c'est-à-dire que là on est dans un discours féministe qui vous tenez à cœur.
Bien sûr, ça me tient à cœur, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien Beauvoir. Je suis moins aficionados de Sartre. Et ça m'amusait que Carverne, pour se faire engager dans la pièce, en fait, il va tuer plusieurs Jean-Paul Sartre. Alors c'était amusant de faire sauter Sartre en plus sur une mine de la Deuxième Guerre mondiale, alors que c'était un peu. Deuxième Guerre mondiale.
Donc, à la question pourquoi avez-vous fait ce film? Pour tuer Sartre.
Pour tuer Sartre.
Plusieurs fois.
Autre Sartre. vous voulez qu'on sorte de là en disant j'ai ri, en disant j'ai été ému, en disant quel est le commentaire que vous aimeriez entendre à la fin de la projection de ce film? Cette musique ne joue pour personne.
Oh, bah, ouais, qui a quelque chose un peu d'humanité, quoi, quelque chose comme ça, et puis de pouvoir. Oui, je sais pas, que les gens soient, que ça leur ait fait du bien, voilà. Je crois que, en plus, en ce moment, on a besoin un peu de ça, donc que ça ait fait du bien aux gens, voilà, quoi.
La musique dans le film, il y a des ambiances signées Gonzalez.
Ouais.
C'est du sur-mesure?
Non. Certains morceaux. J'écoutais Gonzalez beaucoup pendant l'écriture, et je l'aime beaucoup lui.
Il est barré, il aurait pu faire partie de la bande.
Ouais, voilà, il a même le physique, quoi, cette espèce de gars comme ça. Et puis, mais il aime pas trop que ses musiques soient pour les films. Et puis, j'ai réussi à l'appeler, à le contacter. Et puis, comme il est perfectionniste, il a envoyé d'autres choses. Mais je trouvais que je voulais une musique qui vienne justement de leur cœur, pas quelque chose de trop philharmonique, une petite chose comme ça, intime.
Et pourquoi ces chansons, ces tubes incontournables qui viennent
ça,
au milieu
c'est sur toi, elle adore ce moment, ouais. Parce que c'est la musique
c'est dans la voiture,
c'est
dans la voiture
ce qu'écoute Ramzy, en fait. Il écoute une sorte de nostalgie, radio-nostalgie.
Et j'ai vraiment le cœur grenadine.
Non, gros Nadine.
Ici, c'est le cœur gros Nadine.
Ah, c'est ça? Ah ouais, ouais. Chez nous, c'est gros Nadine.
Très bien. On l'a dit un jour à Laurent Voulzy, qui depuis a dit « Mais je ne pourrai plus jamais entendre le cœur grenadine. J'ai le cœur gros Nadine. »
C'est Laurent Voulzy, donc.
C'est, voilà. Et celle-là, je la connaissais pas.
Eh ben, nous non plus. Personne ne la connaissait.
Chanson écrite par le papa?
Le papa, Robert Gall.
Ouais. Elle est géniale.
Incroyable. C'est une de ses premières chansons. Ça vient de l'Albilonie, là. C'est un truc qui est magnifique.
C'est France Gall.
Ouais. Eh ouais. Écoute.
Moi, j'ai dansé dessus.
Écoute, j'ai dit.
Mais j'ai dansé dessus toute une journée.
Écoute.
J'écoute.
Mais tiens-toi. Et ça vient de. Tu vas te faire pleurer, ça, non?
Ouais, tu vas me faire chialer.
Bah ouais, je vais te faire chialer, je sais.
Qu'est-ce que j'ai dansé là-dessus?
Quand tu tues. La musique dans la vie de Samuel Benchetrit et de Ramzy Bedia, on va commencer en 94, Samuel. Et Bob Marley.
Et à cette époque-là, vous réalisez votre premier court-métrage, Saint-Valentin.
Déjà l'amour.
Eh oui.
Ouais, déjà. Oui. Vous dites que vous étiez obsédé par l'idée de réaliser des courts-métrages. C'était vraiment l'objectif premier.
Ouais. Ouais, je faisais des courts-métrages tout le temps. Mais tout le temps. Sous la table, j'aurais fait un court-métrage.
C'était les pieds. Les pieds.
J'ai l'image. La démarche était de dire, j'ai des histoires à raconter ou je vais donner un coup de pied dans la fourmilière et je vais vous montrer ce qu'on peut faire au cinéma.
Ça me brûlait.
Je vais oser des choses.
Ah non, mais ça me brûlait. Ça me brûlait. Je voyais des travelling invisibles, quoi. Ça me brûlait. Je sais pas. Je pensais qu'à ça. J'étais obsédé.
Oui, mais vous, encore une fois, vous avez envie de montrer ce qui ne se faisait pas?
Oh non, alors quand je faisais un court-métrage, par exemple un dimanche après-midi avec ma caméra Super 8, je filmais un verre, je me disais je suis en train de changer l'histoire du cinéma. Là.
D'accord.
Vraiment, c'est ce plan est fou, on l'a jamais fait avant. Après,
mais
quand je voyais
le truc,
je disais c'était flou. Non, je sais pas, c'était vraiment un truc de... ce qui me brûlait vraiment, ouais.
Quant à vous, oui, d'accord. Non, mais j'avais un petit problème. Ça ne vous regarde pas. Vous avez raison. Non, vous avez raison, Ramzy. Vous inquiétez pas. Ramzy Bedia, vous écoutez dans ces mêmes années. C'est le dance floor. Quand on a vu danser une fois Ramzy, on comprend que.
Non, mais il vous dit rien, celui-là, vous êtes trop jeune.
J'étais très amateur de musique des.
Eux, ça leur dit, moi, tu me poses pas la question, mais évidemment.
Bah, tu te souviens de ça?
Évidemment. Mais ça correspond à quoi?
Ça correspond au premier bar boîte à Paris qui ouvre où les Noirs et les Arabes peuvent rentrer. Du coup, il y a que des Noirs et des Arabes. Et on découvre cette musique à ce moment-là. Enfin, on la connaissait. C'est la première fois qu'on l'écoute en boîte, quoi, dans des endroits, et on la partage avec d'autres gens. C'est là où ça devient un peu.
C'est qui?
CNC Music Factory. Okay. Et ça correspond surtout à ma rencontre avec Eric, ça. C'est là que, du coup, j'ai rencontré ce noir dans cette boîte où on pouvait pas sortir.
D'accord.
Et cette musique-là, dès qu'on l'entendait, on se levait et on adorait cette musique.
Vous vous êtes rencontrés au comptoir des Halles, je crois.
C'est ça.
Et vous avez commencé à sympathiser et on vous a dit, mais vous feriez un bon duo.
Exact. Alors que j'avais jamais été au théâtre de ma vie, ouais. Ni vu un truc. Pareil pour lui. On s'est pris au jeu, puis.
Faisiez quoi à ce moment-là?
À ce moment-là, je vendais des faux parfums dans le métro.
Des faux parfums?
Oui. Bah quoi, vous me regardez, c'est pas du crack que je vendais.
Je comprends pas le côté. Faux parfums, c'est des vrais parfums, mais avec des fausses marques.
Non, c'est-à-dire, les clientes arrivaient, ouais. Elles me disaient, pardon, vous avez Anaïs, c'était ça à cette époque. Et je disais oui, et puis moi j'avais Pataïs. Mais c'est exactement la même odeur.
La même odeur, on a tous acheté ça.
Eh ben, tu vois, Leïla.
Ouais, vraiment. Bah, oui. Quand t'étais étudiant, t'achetais des faux parfums, essentiellement.
Opium, ça s'appelait héroïne. C'était drôle. C'était à peu près la même bouteille. Après, mais dans le métro, on le vendait aux gens qui n'avaient pas les moyens de se payer les vrais parfums.
Donc, c'est le parfum était proche du.
Non, c'est la même odeur.
L'odeur,
c'est la même.
Leïla, on a acheté apparemment.
Mais à fond, c'est la même odeur.
Le nom,
le Jean-Paul Gaultier.
Le nom était une vanne.
Le nom était différent, ouais, une vanne, mais l'odeur était la même.
Non, mais c'est drôle que ce soit une vanne. C'est-à-dire que c'est pas Charnel numéro 5.
Non. Parfois, c'était vraiment d'autres noms pour Charnel numéro 5. Ouais, n'importe
c'était
quoi Mimosa 44 ou... Non, ça c'est mon pseudo, pardon. Oubliez ce que je viens de dire. Merde. On est en direct.
On est sur Tinder, donc c'est bon, okay.
Et alors ce qui est intéressant, Ramzy, c'est qu'à l'époque avec Eric, vous vouliez montrer aux blancs qu'on pouvait venir des cités et pas faire de l'humour de cité, mais faire de l'humour de blanc.
Oui, c'est ça.
C'était le positionnement initial.
C'est ce qu'on dit. Mais alors, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas, on avait rien contre les blancs, mais.
Pourquoi aujourd'hui on a.
Aujourd'hui, oui. Non, mais aujourd'hui, ça devient plus bizarre, quoi. L'époque est un peu plus chelou, je trouve. Bon, on va pas parler de ça, mais c'était juste. Parce qu'on démarrait avec Jamel et avec Gad Elmaleh. Et on voyait que Jamel, lui, faisait le petit personnage avec tous les codes de la cité. Gad faisait beaucoup de personnages avec les codes du Maroc et du Bled. On s'est dit, nous, on va pas faire ni la cité ni les Arabes, on va faire de l'humour. Voilà, et c'est là que le mot de blanc est sorti. Ouais. Il a la même valeur quand j'ai dit de... Bon, bref, qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'étais fou de leur humour. Surtout, c'était un humour très surréaliste.
Absurde.
Et aujourd'hui, absurde.
Et on retrouve un peu cet humour-là.
Mais Ramzy, dans la vie, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il n'y a jamais, je t'ai jamais une seule fois entendu être grossier.
Ah, pardon.
Dire un c'est
jamais... Le mec, il vient de le dire.
Je le suis.
Qu'est-ce que tu dis, connard?
Tu m'as jamais dit. C'est le moment est arrivé.
Non, mais revenons sur ce qu'il vient de dire. Oublions la grossièreté. C'est vrai, tu trouves? Non, je te laisse pas avant parler.
En 2001, Samuel Benjamin, vous écoutiez.
Laurent Voulzy.
Non, Eric Satie, ça rime.
Non, ça va, ça. Pareil.
Dans quel contexte vous écoutez de la musique?
Parce qu'on m'a demandé
seul,
par rapport à des choses. Et là, on me parlait de Comédie sur un quai de gare, la pièce de théâtre.
Oui.
Et c'est, j'ai fait beaucoup de voyages en voiture avec Jean-Louis Trintignant. Et moi, je connaissais pas grand-chose. Et il m'a initié à tellement de choses, cet homme, à la poésie, à plein de choses. Et notamment à Satie. Et je me rappelle d'un voyage où on écoutait en boucle ça, comme un tube de Renault, quoi.
Et pardon, et en silence ou dans ce cas-là, vous parliez ensemble?
On ne parle pas beaucoup avec Jean-Louis. On se balade dans les bois. Tout de même, tu crois que t'es seul, quoi. Tu te dis, putain, merde, c'est qui le mec à côté? Non, mais bien sûr. Il est, c'est quelqu'un de discret.
Et c'est lui qui vous a amené finalement à l'écriture. Je crois que des lettres, des poèmes d'amour que vous aviez écrits à Marie, Marie les a fait lire à son père à votre insu. Et c'est là qu'il vous a dit, mais. Il faut écrire pour le théâtre aussi, c'est plus immédiat que le cinéma.
Peut-être qu'il avait lu un de mes scénarios, il m'avait dit « Toi, tu vas avoir du mal à faire tes films parce que tu veux faire un truc un peu différent. Ou... » Alors, entre les deux, comme t'es pas riche non plus, il va falloir que tu t'organises. Et il m'a dit « Écris pour le théâtre ou des livres, c'est bien, tu devrais faire ça. » Moi,
là,
j'ai dit d'accord.
On retrouve encore le lien avec votre film, Samuel, parce que écrire des poèmes d'amour dans les années 2000, entre guillemets, c'est une démarche qu'on peut estimer être totalement décalée.
Complètement ringarde.
Non, je vais pas dire ringarde, j'ai dit décalée.
Mais si, moi, je suis un peu
surprenante.
Je suis un peu comme ça. C'est vrai que par exemple, là, je m'accroche comme jamais. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de faire des films pour le cinéma, alors qu'on me dit, fais des séries.
Ou des plateformes.
Non, mais après, voilà. Mm. Après, on n'est pas démodeste comme un mec qui écouterait des vinyles toujours. Mm. C'est ce que je fais moi, d'ailleurs. Mais donc, il y a un truc comme
parce
ça.
Parce que le son est meilleur,
bah
c'est
oui,
tout.
Le son est meilleur. Et puis, je sais pas, c'est cérémonial, un truc. C'est mon enfance aussi, peut-être. Alors, c'est une façon de. Mais je trouve que la poésie, c'est charger les. Par exemple. Je trouve qu'on devrait, à l'école par exemple, si on disait aux enfants une fois par semaine, aujourd'hui, on vous donne un cahier blanc et vous écrivez ce qui vous passe par la tête, ou on vous donne un appareil photo et vous faites des photos. C'est la façon dont on pose les yeux sur le monde qui est poétique ou qui est photographique ou qui... N'importe qui aurait un appareil photo une journée, ne verrait, passerait pas du tout la journée de la même façon.
Évidemment.
Il verrait des choses incroyables qui pourtant qui sont toujours autour de lui. Mmh. Et je trouve que la poésie, c'est ça aussi.
Ramzy, en 2001, vous écoutiez...
Changement d'ambiance.
Ah, là, on continue.
fin de soirée.
Là, c'est pas le taiseux, c'est le dragueur fin de soirée.
Dernier verre, ouais.
Vas-y. Allez. Ça, c'est le forceur. Allez. Allez, je te dis, 4 heures.
Tu tourneras pas mieux.
Et ça, alors, comme, on nous a demandé de donner des morceaux par rapport à des événements de notre vie.
C'est la tour Montparnasse.
Et là, vous écrivez le scénario. Vous écrivez le scénario de la tour Montparnasse infernale, réalisé par Charles Némès.
Mais ça, c'est des morceaux qu'en fait qui me rappellent une super période de ma vie, quoi. Où avec Eric, ça a marché notre truc. On a décidé de faire on avait des projets donc de faire du cinéma. On a fait la tour Montparnasse. Les gens me souriaient dans la rue.
Mais encore aujourd'hui.
Ah oui, non, aujourd'hui c'est super. Mais c'est là où j'ai pris conscience que ma vie change vraiment et que c'est super et qu'en plus on écoutait ça. Dans les bars, dans les boîtes, et on dansait sur... Je me dis, le BPM est tellement lent, et on dansait pourtant.
Le beat per minute.
Thank you very much.
You're welcome.
Il fallait trouver un morceau vite, mais il me mettait de bonne humeur.
Il est bien celui-là.
Et qu'est-ce qu'on a pêché au-dessus ?
Et voilà.
Et c'était super, cette époque. C'est une époque où les filles, en boîte, ou les filles, ou les mecs, hein, enfin en boîte, je parle de boîte, mais où c'était pas encore sexualisé les danses.
C'est vrai.
Les filles et les garçons dansaient en faisant des pas de danse.
Non, ça pouvait être un peu chaloupé, mais
c'était pas
twerk.
Sexualisé
ça,
comme aujourd'hui.
Ça twerkait pas.
Ça twerk. Aujourd'hui, c'est un appel. C'est bizarre, quoi. Comment elles.
C'est gênant par moment.
C'est gênant comment elles dansent. Et encore à cette époque, c'est.
Comment elles dansent.
Comment ça danse.
Comment ça danse.
C'est une musique sensuelle, sexy, et où les filles dansaient pas. Même moi, les filles et les garçons. On dansait en se regardant dans les yeux et on se disait « Attends, 2 secondes, toi.
» Bouge pas.
Même à 4h du matin.
Mais pas comme Nagui. « Allez !» Tu vois, l'autre classe qu'on avait, nous.
Tu n'as jamais vécu le désespoir de mes fins de soirée, sinon tu ne te moquerais pas. Cette musique ne joue pour personne, c'est au cinéma. Oh. Le nouveau film de Samuel Benchetrit, et c'est ce mercredi, au cinéma, après-demain, de dodo, avant la sortie du film. Anne-Sophie Moreau nous a rejoint. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de Philonomiste, et il y a une réplique dans le film de Samuel Benchetrit où il fait dire à ses acteurs, des formes et couleurs naissent dans les ténèbres. C'est la découverte de l'art, en fait, qui change la vie de certains de ces personnages. Par l'art, on peut sortir de son rang social, de sa condition, sa détresse par moment.
Alors, de sa condition ou de son rang social, j'imagine que non. Enfin, en tout cas, vu les conditions d'une société très inégalitaire, probablement non, ou en tout cas difficilement. Mais par contre, enfin, du point de vue des philosophes, par exemple pour Schopenhauer, l'art c'est un moyen de nous consoler, alors temporairement, d'après lui, hein, parce que pour Schopenhauer, la vie est un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui. Nuit, donc effectivement, ça va être une petite éclaircie.
Ouais, c'est pour
toi, et ensuite, on retombe, donc c'est assez pessimiste.
T'as vu l'effet que tu fais?
Mais oui, évidemment, enfin, en tout cas, pour les. Enfin, après, il y a plusieurs écoles, hein, pour les philosophes, puisque moi, j'interviens en tant que philosophe de service. Voilà, donc, du point de vue des classiques, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent que l'art, ça peut permettre une forme de catharsis, par exemple, pour Aristote, c'est-à-dire le fait de voir des émotions terribles comme la frayeur ou la pitié. Ça nous permet de nous purger de ces émotions tristes et difficiles. Et ça peut même avoir un rôle, ça nous élève à une certaine moralité, à une certaine politique.
D'autres
pensent que pas du tout.
Voilà, sommes-nous tous capables d'être artistes? Avons-nous tous cette petite fleur de poésie en nous, comme peut nous le faire espérer le film de Samuel Benchetrit? Les philosophes le disent. Il y avait le côté Mozart assassiné aussi chez Saint-Exupéry. Est-ce qu'on a toujours forcément en nous quelque chose que l'on cache, soit par pudeur, soit par
En fait, ce qui est vraiment intéressant dans votre film, c'est que on n'a pas seulement une vision de l'art comme une œuvre, qu'on irait contempler au musée, qui serait ce qu'on appelle l'art de l'espace, en fait, qu'on distingue de l'art du temps. On est plutôt dans les arts du temps, c'est-à-dire des arts qui sont vécus et qui sont vécus par chacun et qui sont produits, créés par chacun, ou au moins réinterprétés dans le cas de la pièce. Et donc, dans le cas effectivement de l'art amateur, finalement. moi je trouve qu'il y a une il y a un mouvement qui est intéressant qui est aussi de finalement de aussi peut-être de réagir à une phase de l'art et de la théorie de l'art puisque finalement en fait on est passé par tout un tas de phases hein, dans la dans l'idée qu'on avait de l'art il y a eu l'art pour l'art non il y a que la forme qui compte et puis ça ne doit être ni utile ni beau ni rien c'est pas politique l'art et c'est encore moins quelque chose qui vous aide dans la vie au contraire l'art c'est vraiment fait pour être uniquement de l'art et c'est tout finalement aujourd'hui de plus en plus on a aussi un art très très marchandisé très financiarisé voilà on a on va voir tel ou tel gros truc de Jeff Koons ou de Christo et on est censé bon voilà
qui font débat,
en apprendre quelque chose mais on est finalement totalement passif face à cet art imposant venu d'en haut qui devrait et donc il y a deux façons en fait de voir l'art dans son rapport à la vie ou à la société on peut considérer que entre guillemets le peuple va voir de l'art un peu comme il allait voir du réalisme soviétique et que ça va l'élever à au-dessus de sa condition mais ça c'est finalement une approche un peu top down hein, comme on dirait en politique ou en entreprise mais on peut avoir une autre approche qui va être en fait de se dire que chacun peut lui aussi balbutier en tant qu'amateur et retrouver quelque chose comme une émotion esthétique qui se joue dans le temps, au sens où c'est dans l'instant présent. Enfin, cette scène où on voit qu'ils soufflent sur des plumes, etc. On leur dit finalement l'important c'est pas la pièce, c'est d'être ensemble. Et donc en réalité on se rend compte que là, il y a une portée morale et politique, mais qui ne passe pas par un enseignement philosophique lourdement appuyé comme dans la pièce. Enfin, il y en a plein, mais on se rend compte que ça rate un peu. Finalement, on n'a pas vraiment envie d'écouter ce que ni Sartre ni Beauvoir. Mais par contre, on se rend compte que dans l'instant, dans l'écoute qui affleure et qui est extrêmement intense entre les individus, là, il y a quelque chose comme un rapport esthétique, politique, voire éthique au monde, à l'autre.
Vous l'avez dit, l'art passe pas forcément par le partage, parce que ceux qui écrivent par exemple des poèmes et les gardent pour eux dans un carnet intime n'ont pas le même retour, le même regard sur ce qu'ils sont réellement, s'ils ne le partagent pas.
Oui, alors la question c'est est-ce que la pièce disparaît avec son auteur ? Voilà, c'est une question que pose l'acteur à un moment donné. Voilà, si la musique s'arrête, est-ce que s'il n'y a plus personne pour l'écouter, est-ce que l'art disparaît ? Peut-être.
C'est la question du film aussi. Hein. C'est, oui. C'est que à quel point, enfin, la phrase précise dans le film, c'est ça, c'est si la musique s'arrête.
Oui, non, en fait, si cette musique, on est là pour l'entendre, mais s'il n'y a personne, est-ce qu'elle existe quand même? Ouais. C'est l'arbre dans la forêt, quoi. Si un arbre tombe et personne n'est là, est-ce qu'il fait du bruit ou pas? Mais c'est, en fait, il n'y a pas de réponse. C'est en fonction de l'attachement qu'on a ou du moment où on est dans notre vie. Voilà, c'est intéressant.
Dans le film, en tout cas, le personnage, lui, donne une réponse.
Lui pense que la musique, existe. Comme l'amour, existe, voilà. Si même... on l'aime.
Bah, c'est ça.
À partir du moment là,
merci beaucoup Anne-Sophie d'être
merci
venue à ce micro. Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomiste. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour Nagui.
Vous allez parler de quoi tout à l'heure?
Eh bien, je vais parler de l'eau by McDo. C'est de l'eau du robinet vendue super cher par McDo. Donc autant s'enfiler du Fanta, c'est bon le Fanta. Enfin, moi je me lave avec tout ça. Tout
on verra ça. Mais d'abord, voici le héros du jour, Monsieur Daniel Mort.
Oui, les amis, bien sûr. Et aujourd'hui, mon héros du jour aurait très bien pu être le secteur du BTP. J'aime les monuments. J'aime le bâti. J'aime les bâtiments, nos témoins urbains, quand ils se métamorphosent. Combien de temps ai-je passé à regarder méduser les travaux de rénovation de la maison de la radio? Et que je te démolis le quartier Est, et que je remonte le quartier Est, et que je redémolis le quartier Est parce que j'ai oublié de désamianter, et que je remonte le quartier Est, et que je refais tout pareil avec le quartier Ouest, et que 6 mois plus tard, je redéfonce le quartier Est qui n'est plus aux normes, et qu'on va inaugurer la fin des travaux, sauf que, oh bah merde, j'ai oublié de faire des portes, on redémolit tout. Bref, ça fait 16 ans que ça dure et je ne m'en lasse pas. Le BTP, ma grande passion, mais ça c'était avant. Ça s'est brusquement arrêté avec la construction d'une atrocité. Et là, attention les amis, ça n'arrive qu'une fois tous les 3 ans, je vais laisser s'exprimer la gauche qui sommeille en moi. Cette atrocité, le mur anti-crack entre Paris et Pantin, un aveu d'échec insupportable. Là pour moi, on a vraiment touché le fond, je suis donc fâché avec le BTP. Du coup, changement de cap, mon héros du jour est Benjamin Davidot. Un héros pour de mauvaises raisons, je m'explique. Le docteur Benjamin Davidot, infectiologue, nous annonce la 5e vague du Covid. Faut avoir du courage quand même, alors que tous les indicateurs sont à la baisse et qu'on commence à revivre normalement pour nous balancer qu'on va replonger des primes. Moi là, j'ai retrouvé le sourire, je suis bien. Hier, j'étais au top, j'étais présent à l'événement culturo-humoristique du jour. Non, pas la tournée des humoristes France Inter en Folie Bergère, non, mieux, beaucoup mieux. J'étais à la journée du conservatisme à Asnières.
Et oui, les amis, je sais, ça paraît dingue, mais cette journée existe. Et quelle ambiance! Quelle ambiance! Pas de gestes barrières, pas de masque. Éric Zemmour nous a régalé. On a célébré le conservatisme dans la joie, l'allégresse. C'était génial. Guillermo est intervenu. Il a fait son célèbre sketch intitulé Belge, humoriste et fasciste. Et alors? Je kiffe la vie. Et là, le docteur Davido, alors qu'on baisse la garde, nous dit haut et fort pendant qu'on s'amuse, fini la bamboche, bande de voyous sanitaires. Attention, la cinquième vague arrive. Bah, rien que pour cette aisance à casser le moral, je vous tire mon chapeau, docteur Davido. Vous êtes mon héros du jour.
Merci, Daniel.
C'est la bande originale avec Kelly, la cadeau vous d'avis, Morgane de Dignan, Guillermo Guiz, Tanguy Bossureau, Daniel Moral, nos
bonjour
invités.
Bonjour Daniel.
Pour l'instant, Ramzi Bedia et Samuel Végétri. Oh,
j'y pour l'instant parce que. À tout moment, Ramzi peut quitter.
Mais non, la... il est content d'être
parce que j'ai une dignité, parce que je me respecte et il y en a marre de prendre des piques.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette émission, en termes de respect, vous avez raison. Au cinéma, donc, ce mercredi, sous la direction de Samuel Benjetrit, ce film choral avec François Damiens, Ramzi Bedia, Gustave Kervan, Joe Star, Bully Lanner, ça c'est la bande de malfrats ou de dockers. Et puis, côté fille, Vanessa Paradis, Valeria Bruni, Tedeschi, Constance, Rousseau, Raphaël Doyle sont la part de féminité.
Enfin, les... Juste, c'est pas Valeria Brownie comme
vous l'avez dit. Elle était là il y a trois jours. Je dis pas Gige Brownie.
Vous venez de dire, monsieur Nagui, Valeria Brownie.
Toi, t'as faim. Toi, t'as faim.
Notre Valeria.
Toi, t'as faim. Toi, juste, t'as envie de manger.
C'est la doublure.
Valeria Brownie.
Vincent Macaigne, Jules Benjetrit, Bruno Podalides sont dans ce film qui laisse une part belle à la poésie, à l'amour. On l'a dit, il y a des scènes d'extrême violence, mais parce que comme si c'était finalement dans leur quotidien et beaucoup d'humour et d'humeur. Moi, il y a vraiment des moments où je me suis marré dans le film. J'imagine que vous aussi, il fallait aussi amener cette espèce de légèreté.
Ouais. Le tournage était très joyeux, hein. Forcément, avec tout ce petit monde-là.
Ouais.
Surtout avec Valeria Brony. Non, mais c'est...
C'est moi qui suis capable de quitter
ouais, cette je... Vous me faites chier. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, mais ouais, dans le tournage, j'étais très joyeux. Et après, c'était des enfants. C'était comme
cette musique ne joue
enfants.
Pour personne, c'est-à-dire de prendre l'une des répliques du film comme titre, tout est résumé dans cette phrase. Cette musique ne joue pour personne, c'est-à-dire que est-ce que la musique existe si personne est là pour l'écouter?
Oui, je crois. En fait, c'est l'attention qu'on met. Et d'un seul coup, c'est ils n'étaient pas vraiment, je pense, concernés par l'amour depuis longtemps. C'est ce que je me raconte comme ça. Et d'un seul coup, ils ne sont concernés que par ça.
Et donc, puis c'est l'importance du regard de l'autre, l'importance de l'écoute.
Oui, de l'autre. Je crois. L'attention, oui. L'attention. D'un seul coup, ils sont attentifs à l'autre. Ils veulent aimer. C'est ça. Ils veulent aimer. Ils veulent plus aimer qu'être aimé, même, je crois. Et puis
poète qui écrit des poèmes à une personne qu'il ou elle aime et qui ne les communique pas, ces poèmes, qui les garde pour soi, ça reste de la poésie, ça reste de l'amour, ça reste de l'art.
Ah ouais, je pense. Ça nous est souvent arrivé de rencontrer des gens qui nous disent moi aussi j'écris. Mmh. C'est sûrement très bien. Je sais, voilà, c'est vrai que nous on en fait. On publie les choses, alors parfois on se dit mais pourquoi les publier, parce que je sais pas, c'est un métier, c'est comme ça, c'est quelque chose qui... Mais il y a plein de gens qui écrivent, je crois, qui écrivent sûrement, qui, certainement très bien. Combien de lettres d'amour chaque jour sont envoyées, des poèmes, des... C'est quand même joli de, je sais pas, de faire rimer amour et toujours quoi.
Ramzi, quand on tombe dans une bande comme ça avec des...
Ramzi, vous écrivez des poèmes des...
Non, le dernier truc que j'ai envoyé...
C'est un smiley.
Oui, un truc avec les bisous cœur, en espérant qu'elles comprennent.
Mais quand on tombe au milieu...
Allez
de... Quand on tombe au milieu de personnages comme François Damiens, Gustave Kervan, Joe Star et Bully Lanners, il faut faire sa place. Est-ce que là, c'est le travail de Samuel Benchetrit? Est-ce qu'on fait des propositions? Comment travaille Samuel finalement comme directeur d'acteur?
Alors il y a deux questions là-dedans. Ouais. La première question, comment on trouve sa place? Là, j'ai déjà tourné dans des bandes d'acteurs avec plusieurs acteurs. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus. Ça a été la fois la plus facile, celle-ci en fait, parce que effectivement, on avait tous un point commun entre Gus, François et tous les autres.
Bouli et Joey, apparemment vous avez oublié les deux autres.
Attention, c'est une pique.
Non,
c'est pas une pique.
C'est pas une pique. C'est pas une pique.
La personne en traître, il a dit qu'à la première pique, il part. Okay,
mais on fait.
Il faut se menace.
C'est hyper tendu.
Un bon vieux western.
De partir, quoi, c'est drôle. Mais c'est que des comédiens, tous ces comédiens-là, c'est pas des comédiens qui veulent se mettre devant la caméra, qui veulent pas. Personne veut prendre la place de l'autre, personne veut avoir plus de ligne que l'autre, personne ne veut être plus beau que l'autre, ça se voit sur l'affiche. Hein.
Et justement, Samuel dirige dans ce sens ?
On a dû lui dire, ouais, tous ces acteurs, attention, ça va partir un petit peu en vrille, ils sont intenables, je ne sais quoi, et en fait, on était tous au garde-à-vous devant Samuel, il est tellement doux, tellement sympa, tellement marrant, et puis tellement comme nous, qu'on a bien compris que...
On n'a pas envie de le frapper.
On s'est frappé. Il avait envie de nous frapper, oui. Mais on est tous vraiment concentrés et contents de faire ce film. Sans faire de flagornerie, on était tous là pour... C'est quoi ton prénom ?
Et je me casse.
On était tous là pour Samuel. On avait tous envie de tourner avec lui et on voulait rentrer là-dedans. Donc non.
Cette musique ne joue pour personne. Ce mercredi 29 septembre au cinéma, le nouveau film de Samuel Benchetrit. Voici le nouveau temps qui passe sur Odo aujourd'hui.
L'autre jour, à midi, j'ai eu envie d'accéder à la beauté, de me caresser l'iris, comme quand on regarde un tableau de Monet qui peignait des plantes et des fleurs, c'était le silence ça pousse de l'époque. J'ai donc mis le JT de 13h de Julien Bugier sur la 2. Ah, Julien Bugier. Il a tout. Un visage parfait, une voix grave et chaude, un regard doux. Il me fait tellement l'effet d'un feu de cheminée en janvier que si je le croise un jour, je pense que je lui jetterai une bûche. J'étais donc là, à l'écouter parler, tout en faisant la vaisselle, nu avec juste des gants de vaisselle. J'ai appris qu'on faisait comme ça après avoir vu plusieurs films d'Orcel où ça se pratiquait ainsi. Ensuite, une dame arrive et dit, monsieur, voilà ma gratounette. Enfin. Vous savez, la vaisselle est un moment chargé d'érotisme. Il faut savoir que les préados connaissent en général leur première érection devant Bob l'éponge. Donc je regardais le JT de Julien Bugier. Il y avait un reportage intitulé « Évasion week-end » qui proposait de découvrir la Normandie. Alors la Normandie, c'est comme Dubaï, mais sans soleil et avec des impôts. Un envoyé spécial à Étretat témoignait sous la flotte que la Normandie, c'était génial. Il était trempé, donc je pense que le directeur de l'office du tourisme d'Étretat le tenait en joue depuis le haut de la falaise. Julien Bugier a aussi parlé des cookies. Un reportage montrait un chef français à New York spécialisé dans le cookie. Et là, Julien Bugier a dit, eh oui, il y a toujours un Frenchie quelque part. Phrase qui va avec tout. Un reportage à Pataya où au milieu des mineurs qui dansent, il y a un monsieur venu de la Somme. Ça marche aussi, donc c'est très pratique. Et à un moment, Julien Bugier a pris sa tête sérieuse. Donc on a senti qu'on allait partir d'Étretat. Je me suis dit, ah fuck, ils vont encore faire un truc sur les talibans, j'en peux plus. Moi, de ces mecs qui ressutent, sapés dans du lin, si je veux voir des gens comme ça, j'ai suffisamment d'intermittents du spectacle autour de moi. J'ai voulu zapper, mais impossible, j'avais mes gants de vaisselle. Là, Julien Bugier a dit, je veux vous parler d'un scandale. J'ai frémi de terreur. Qu'avait-il pu se passer? Si ça se trouve, un des Frenchies qu'on trouve toujours quelque part avait dérapé. Il avait répondu non à Amsterdam à un dealer qui proposait du shit, donc son comportement suspect avait alerté les autorités. Mais Julien Bugier a dit, oui, scandale, l'enseigne McDonald's vend l'eau très cher. Donc première chose, je me suis dit, aller chez McDo pour boire de l'eau, ça revient à traîner dans une librairie de manga quand on cherche à acheter le Grand Mône. Enfin, si on va chez McDo, c'est pour se remplir le bide jusqu'à en faire péter sa cicatrice d'appendicite. Je suis sûr que si un jour un djihadiste qui détestait ses explosifs, parce que c'est très lourd à porter, on n'en parle jamais, mais enfin, voilà, cherche à se faire exploser de cette manière, il pourrait demander 12 cheese, 5 menus de luxe, et là le manager du McDo crierait tous à terre, c'est un attentat. Pour moi, un type old school, je rappelle que j'ai vécu l'époque de la sortie de l'album des Sœurs Natives. Le McDo, c'est pour faire du mal à ses organes. C'est une forme de sadomasochisme de l'intérieur. On mange en criant, prends ça, sale foie, et toi aussi, intestin, tu étais vilain. Oui, oui, très vilain. Mais figurez-vous que depuis peu, McDonald's veut changer son image. Mais je sais pas pourquoi. Donc, ils vendent des salades, que personne n'achète, hein, des pommes découpées en tranches, parce qu'ils pensent qu'on est trop con pour manier un couteau. Hein, à 25 ans, là-dedans, on vous traite comme à l'EHPAD. Je pense que si vous demandez, une dame vous change. Hein, tandis qu'Yves Dutheil, en arrière-plan, vient chanter ses plus grands succès. Donc, de la salade, une pomme. Vous allez chez McDo, vous avez la vie du Dalai Lama, le jour où il a décidé d'arrêter les excès, quand la veille, il a craqué pour un bounty à la gare de Montluçon. Et en plus, maintenant, ils vendent de l'eau. Mais plus en bouteille plastique, parce que le plastique est de plus en plus interdit. Hein, c'est pour ça que les influenceuses quittent la France, parce que leur corps, ça passe plus. Non, ils vendent en gobelet carton ce qu'ils appellent l'eau by McDo. Hein, alors, dès que vous mettez by, ça fait classe. Passion de feu by Dior. Ah, même plateau repas by Air France, on dirait miam. Hein, y a que Nathalie by, on comprend pas quoi. By quoi? Enfin, je veux dire, enfin, jusqu'au bout de la démarche. Hein. Donc, l'eau by McDo, c'est classe. On se dit, ils sont allés puiser à la source la plus pure. À un moment, sur le chemin, ils ont croisé un mec de Kézak, ils lui ont dit, barre-toi, ma un an avec ton eau dégueu qui s'appelle Oreo ta gueule. Eh bien non, le JT de 13h a enquêté. L'eau by McDo qui coûte 2,75€ les 50 centilitres.
Wow.
C'est en fait de l'eau du robinet. Oui, le bon vieux robinet. Celui qui t'empêche de dormir quand il goûte et que tu n'as qu'une pièce parce que tu es pauvre. Hein, il la filtre. Si vous la voulez pétillante, je pense qu'il y a un type qui s'ouvre dans le gobelet avec une paille. Et hop, elle est vendue 6€ le litre alors qu'elle coûte en réalité 0,003€ de litre. Ça, c'est de la marge, baby. C'est comme quand un chanteur vous refourgue un album dépouillé où on l'entend seul avec un triangle à 19€, le même prix qu'un album avec 120 corps de chasse. Donc, interrogé, McDo a dit oui, non, d'accord, mais bon. Un responsable dans le reportage dit quand même, attention, il s'agit d'eau filtrée plus. Voilà, donc il y a 12 précaires avec chacun un tamis hein, dans lequel passe l'eau. Ensuite, une jeune vierge la contemple pendant 7 heures. Un druide invoque Borvo, le dieu celte de l'eau. Hein, celui dont Gérard Depardieu dans Astérix a refusé de prononcer le nom afin de respecter ses convictions personnelles. Et là, enfin, c'est bon. Alors, bien sûr, des gens de gauche se sont insurgés. Mathilde Panot, députée France Insoumise, a dit « L'eau est à nous tous, pas aux multinationales ». Ouais, oh, non, ok, mais là, c'est l'eau by McDo, hein, quand même. Alors, peut-être ensuite, ils vont lancer le lait by McDo, hein, 22€ le verre de Lactel. Et ils diront qu'ils ont mis 80 filtres sur chaque pied de vache. Hein, les bêtes seront à 4 mètres de haut. Alors, moi, pour McDo, je propose boycott by Pasturo. Hein, c'est pas bon, c'est gras. Et le clown Ronald est terriblement effrayant. Et si vous voulez de l'eau, restez chez vous. Parce que McDonald's, je suis désolé, mais on y va pour dérouiller son bidou et pas pour consommer sainement. C'est un truc qui se passe entre un individu et son putain d'intestin.
Merci, les organisations.
Et Tanguy, on te retrouve en spectacle ce samedi à Hier.
Yes. Cette musique ne joue pour personne, le western poétique signé Samuel Benchetrich. Je ne sais pas si vous aimez j'adore. Cette bassline, ça vous va?
Super, j'adore.
Très bien.
C'est bon ça, ouais, western c'est... poétique, c'est super.
Bah, je...
Vous voyez, il fallait venir ce matin.
Je veux venir voir mon western poétique.
D'autres événements dans la culture, Leïla, que se passe-t-il?
On va parler de la particularité du dernier film de l'univers Harry Potter, The House of Gaunt, les origines de Voldemort. D'après vous, quelle est sa particularité à
Harry
ce
Potter
film
n'est pas le
Non.
Dessin animé?
Non.
Harry Potter est mort.
En noir. Non. Harry Potter.
Ce n'est pas un nouveau volet de la saga.
C'est avec Valeria Browning.
Ce n'est pas quoi, t'as dit?
Non. C'est pas un nouveau volet de la saga.
C'est un spin-off centré sur un autre
personnage. C'est un prequel.
Et c'est lié au financement.
Ah, au financement.
C'est un montage des meilleurs moments des autres.
Non. C'est le plus cher.
Non.
C'est le moins cher.
Non. C'est le moins cher parce que c'est pas de la saga.
C'est les fans qui ont financé.
Absolument. C'est un film fait par des fans grâce à un financement participatif, un court métrage de 33 minutes que vous pouvez voir sur la plateforme Vimeo. Ça a été filmé avec une équipe de 80 bénévoles. Ça raconte l'ascension de Voldemort, sa jeunesse.
Enfin, avec tout l'argent qu'ils ont gagné avec les précédents, je comprends pas le côté venez nous aider à faire un film.
C'est des fans. Non. Des fans se sont emparés.
Ah, c'est pas un film
et
officiel.
Oui, ça d'accord. leur a coûté 62 000 euros via le financement participatif. Ouais, ils ont tourné ça en 12 jours, vous pouvez le voir en ligne. Ça continue à faire vivre finalement la franchise Harry Potter bien. Et Harry Potter ne s'y oppose pas. Je l'ai pas vu en entier.
Est-ce que t'as le droit?
Oui, t'as le droit et au contraire, je crois que les studios sont plutôt intéressés. Pub. C'est ouais, même pour Star Wars, il y a beaucoup de films de fans qui sont faits.
Moi, je suis en train de tourner un petit Mad Max avec Daniel Morin.
Ça a fait 1 million de vues.
D'accord.
Ça a déjà fait 1 million de vues. Est-ce que vous avez des tempéraments de fans? Est-ce que la sortie du prochain James Bond, je crois que c'est le 6 octobre, ça va vous faire déplacer au cinéma ou pas du tout? Il y a des films, des sagas en particulier.
Ouais, je vais voir James Bond quand même. Ouais. James Bond, ouais. J'aime bien le voir.
Ça vous fait vous déplacer. Ouais.
Ça vous renvoie à votre enfance?
Ouais, ou James Bond, Rocky, tout ça. Je peux pas les voir.
Ah, il y a un nouveau Rocky?
Non, mais
c'est Rocky. Je m'en vais moi aussi.
Non. Si tu t'en vas,
il doit y avoir une nouvelle lune. Tout le monde est fragile.
Mais c'était pas un pic, hein. C'était pas une pic.
Vous êtes en train de faire une autre ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Allez, on y va. Je m'en vais.
Ah non, tu t'en vas pas, on a besoin de toi.
Ouais, ouais.
Voilà. The Artist, c'était samedi soir en direct sur France 2 à 20h40. Des auteurs, compositeurs, interprètes présentent leurs nouvelles chansons. Et puis tous les soirs de la semaine à 20h, Leïla Kadoboudadi vous donne rendez-vous sur le canal 14 de la TNT. C'est-à-dire quand France 4 devient Culture Box pour faire des masterclass.
C'est ça. Et on va revenir sur le prime de samedi avec un candidat, des artistes qui ont remporté la mise, c'est Rookin.
Puis le ciel est tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage pour ma tête en
Nino et Sébastien de Rouquine donc se sont hissés en tête du classement. Ouais.
Avec une chanson sur le cancer.
Ouais, avec une très belle chanson et c'est deux gars super. Il y avait Nicolas aussi qui était présent dans ce prime. Nicolas.
Deux gars super qui ont une très bonne nouvelle. Tu vas en parler après.
Ouais, je peux le dire maintenant. Je peux le dire maintenant. Gaëtan Roussel leur a demandé de faire sa première partie.
À l'Olympia le 17 mars. Ouais, voilà. C'est-à-dire que les gars viennent présenter une chanson que personne ne connaît. Ils ont signé dans aucune maison de disques. Et Gaëtan Roussel les prend en première partie à l'Olympia le 17 mars.
Mais ils voulaient.
Alors, ils sont obligés. Ils regardent s'ils sont libres ou pas.
Ils sont dispo. Autre temps fort de cette soirée, c'est l'interprétation du titre magnifique par Nicolas.
Souvent je descends. Je sais que je suis bon qu'à faire des chantiers et des redescentes. Je suis indécent, merde. Je vois des pauvres gosses qui rêvent de la misère, qu'assument pas le confort. Classe moyenne, vie moyenne.
Ce sont tous des auteurs, compositeurs, interprètes qui viennent chanter pour la première fois à la télévision leurs compositions.
À eux,
absolument.
Qui écrivent leur poésie, qui écrivent leurs textes.
Ouais, ça c'est bien, parce que souvent le problème c'est qu'ils chantent des chansons des autres.
C'est ça, ce sont des interprètes.
Ils vont dire, tiens, je vais prendre Barbara et je vais en faire un truc punk, c'est pas toujours réussi. Hein.
Ouais. J'ai vu des artistes, c'est bien.
Ah ouais.
Et puis un autre temps fort, c'est Gabriel Joseph qui était assez mal parti dans le classement, mais le public l'a rattrapé.
Ah oui.
Qui t'a fait une sacrée blague d'ailleurs. Parce que tu as parlé de remontada.
Oui.
Et lui a fait une petite référence à Arnaud Montebourg.
Ah, c'était
Arnaud Montebourg la blague.
J'ai pas capté.
Mais oui, la remontada.
Moi, pour moi, c'est PSG, Barça.
Et ben non. Mais bon, et j'ai vu ce moment où il te dit remontada, vous avez la ref, et personne n'a réagi.
Non,
et
j'avais pas.
Un petit clin d'œil à Arnaud Montebourg.
Il va falloir que je m'intéresse à l'actu alors.
Ouais. Et autre candidate aussi, c'est Claire Hardy avec son titre Putain.
Putain, t'as brisé mon cœur. Tu me dis quoi et tu baises ailleurs. Tu me dis quoi et tu baises ailleurs. Tu me dis quoi et tu baises ailleurs.
Sur une histoire vécue, c'est-à-dire elle s'est fait plaquer par son mec, elle en fait une chanson. C'est là où on disait que tout à l'heure, l'art pouvait servir à penser
non,
certaines
là,
plaies.
C'est,
quoi.
Vraiment, c'est l'exemple parfait. Les gens, ils viennent et ils scouillent les chansons qu'on entend, elles sont vachement belles. Celle d'avant est très belle aussi.
Aussi, Gabriel Joseph. Et Claire Hardy a tapé dans l'œil d'un des membres du jury, c'est Pascal Obispo. Ouais.
Quand on écrit des chansons, quelquefois on peut aller chercher à droite, à gauche, des choses pour essayer de se faire son intéressant, de trouver des sujets. Toi, tu chantes, t'es pur, t'es vrai dans ton texte, t'as ton langage, c'est ce que tu vis, doublé d'une mélodie en plus efficace. Alors moi, j'adore aussi.
Voilà. Et puis on a évoqué aussi la possibilité ou pas d'utiliser des mots comme putain, baise dans des chansons. Et Pascal Obispo de rajouter tous les mots sont possibles quand c'est dans la poésie. Ça ne prend pas le même poids, le même sens de vulgarité que l'on pourrait avoir dans tous les genres.
Bah ouais. Léo Ferré, il l'a fait il y a très longtemps, même Brel à sa façon, ou qui on veut, ou Brassens, tous ces mecs-là.
Putain de toi.
Voilà, il y a pas de...
Alors, pour être très clair et totalement transparent, comme on l'a toujours été, dans cette histoire où France Inter et France 2 sont partenaires, il n'y a pas eu une masse conséquente et considérable de public devant la télé. Ça tourne toujours autour du million de téléspectateurs. Donc, on a décidé, France 2 et toute l'équipe, de passer au vendredi soir en deuxième partie de soirée, 22h40. Qui est la place dédiée entre guillemets taratata pour que l'émission continue, aille jusqu'au bout de son histoire évidemment, pour ne pas d'abord briser le lien qu'il y a entre le public et certains artistes, pour continuer de les présenter. Si Ramzi, tu en as vu quelques-uns peut-être que...
J'ai bien aimé celui qui chantait, mais elle est passée, c'était Étoile fuyante.
Gabriel Joseph, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et donc ça va continuer en direct toujours avec des votes gratuits, j'insiste là-dessus, c'est important, mais c'est toujours avec des créations aussi que vous pourrez juger si ces artistes poursuivent leur route. Mais là où on a déjà, entre guillemets, gagné un tout petit peu, c'est quand on voit que Rookin sera en première partie de Gaëtan et
Anissa
en première partie
de trio.
Voilà. Ouais. Donc c'est tant que le lien est fait entre des auteurs, compositeurs, interprètes et d'autres, ce lien et cette créativité et finalement le rôle du service public continuera d'exister. Et donc rendez-vous vendredi en direct. Et dès ce soir, les masterclass se poursuivent avec
Monsieur Bertignac.
Très bien. 20h, Leïla. Sur le canal 14 de la TNT, Culture Box pour The Artist. Dans les projets, enfin non, c'est pas des projets, même carrément, c'est en ce moment, c'est l'actualité, c'est même un succès pour vous, Samuel Benchedri, votre pièce que vous avez écrite et mise en scène, Maman, est interprétée par Vanessa Paradis, Eric Almostino, Félix Moati, Gabor Razov, tout ça c'est au théâtre Édouard VII, ça a commencé il y a une dizaine de jours,
oui,
et c'est un carton, et vous
êtes... C'est super, ça fait du bien de voir des gens. C'est vraiment non mais
c'est
dingue quoi d'un seul coup les gens comme ça tous ensemble là c'est merveilleux c'est un, ça me rend très heureux.
Je sais pas d'où est venue l'anecdote, mais un jour Laurent Baffy m'a raconté une situation, celle qui est le pitch de la pièce. Il me l'a raconté d'une manière extrêmement violente. Je sais pas si vous la racontez. Oui, Laurent Baffy.
De ma pièce.
Non, de alors. Pardon, j'ai pas compris. Bon, tant pis. Je raconte l'histoire. Non, mais il est avec sa maman à l'enterrement de son papa. Donc ils sont dans un moment d'émotion et de tristesse profonde et sa maman a mis ses vêtements les plus beaux. Elle avait un manteau comme ça avec un col et elle était avec son sac et il sort du cimetière. Lui prend un taxi parce qu'il doit repartir. Sa maman est debout devant le cimetière sur le trottoir et il s'arrête en taxi. Il baisse la vitre comme ça. Il dit bon tu vas pas rester là à faire le tapin. Tu rentres à la maison. Maintenant, maman, c'est la vanne la plus dingue que l'on puisse faire en sortant d'un enterrement.
Ouais. Il est drôle en même temps.
Non, mais faut être fou pour faire une vanne comme ça.
Il faut surtout avoir de grandes épaules quand t'es sa mère. Quoi.
Ah ouais. Mais il avait besoin aussi de la faire rire à ce moment-là, ce qui a fonctionné. Et quand je vois le pitch de la pièce.
C'est une femme qui ferme un magasin, elle a un manteau de fourrure, c'est l'hiver. Elle attend un taxi, il y a un jeune mec qui passe et qui la prend pour une prostituée. Et elle va le prendre pour autre chose, quoi, on va dire. Mais c'est le point de départ. Mais c'est drôle, hein, c'est une comédie.
La série H, pour information à propos de comédie, est rediffusée sur Netflix. Mais parlons plutôt de l'avenir. Kung Fu Zora.
Ah oui. Ah oui, super film.
C'est vrai.
Ah, je l'ai vu, super film. Un film de Mabrouk El Meshri avec Sabrina Ouazani et moi-même.
Qui sortira le 9 mars prochain.
Vous me l'apprenez.
Voilà. Et l'homme au bord de la crise de nerfs d'Audrey Dana, ça sortira la semaine suivante. Donc vous avez un mois de mars chargé. Vous risquez d'être sujet à une autre invitation. Je vous préviens.
Oh, je ne reviens. Oh, alors là. Si vous croyez que je vais revenir.
Des excuses à présenter,
oui,
Daniel Morin.
Désolé pour messieurs Ben Chetrit et Bédia qui, comme dans le film, espéraient ce matin découvrir un peu d'art, de poésie et de rêverie dans cette émission et se sont retrouvés face au duo maléfique Guillermo Guise. Et son sgeg. Désolé pour Mimosa 44, alias Ramzi Bedia, le vendeur d'héroïne. Pas la drogue, le faux parfum.
L'enchaînement après le sgeg de Guillermo est gênant, hein, mais bon.
Et également d'opium, pas le parfum, la drogue. Le type qui n'est jamais grossier, sauf quand il dit bit compliqué, le gars. Désolé pour Joey Star, qui ce matin a pris de la bouche de Ramzi Bedia qu'il était le plus gros de la bande. C'est vrai, c'est moche. Après, à la pause, il a balancé aussi que Bully Danner, c'était le plus con, Damiens le plus laid et Carverne le plus sale. Ah, la grande famille du cinéma. Désolé enfin pour Nagui, Nagui Lover. Nagui, dans la technique top secrète de séduction de fin de soirée, a été outé par Ramzi Bedia, le désormais fameux. Waouh, Casanova, mais Casanova bourré.
Ce western poétique dont vous attend au cinéma à partir de ce mercredi 29 septembre. Un scénario co-signé de Gabor Razov, on en parlait tout à l'heure pour la pièce. Okay. Avec vous, Samuel Benchetrit, un film que vous avez réalisé avec François Damiens, Ramzi Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Carverne, Joey Starr, Bully Lanners, Valeria Bruni Tedeschi et Vincent McCain ce mercredi. Merci tous les deux d'être venus.
Ah, je prends très mal ce merci.
Rendez-vous demain quel acteur avec Leïla Vecchi. Voici les carrières de coffret de Philippe Herbert.